Vous êtes à l'écoute de Libre à toi à la radio, c'est sur le chat, c'est en direct, chat.libre-a-toi.org. On est au petit bain, Clara est toujours à mes côtés. Alors c'est elle qui est debout cette fois.
Radio debout là.
Voilà, t'es radio... Absolument, t'es radio debout. Emmanuel Grégoire, lui, qu'on vous avait promis, parmi les personnalités éminentes hein, qu'on allait recevoir ce soir. Non, je plaisante.
Non mais
vous êtes peut-être éminent, mais peut-être.
Mais personne le sait.
Peut-être qu'une fois que je vous connaîtrai, je vous trouverai effectivement éminent. Alors Emmanuel Grégoire, merci d'être passé au studio improvisé de Libre à toi. Alors je suis désolé, j'ai pas retenu votre carte de visite parce qu'elle est assez impressionnante. Alors vous représentez la mairie de Paris aujourd'hui ici.
Je suis adjoint d'Anne Hidalgo. Oui.
Voilà, vous êtes adjoint d'Anne Hidalgo. Vous avez notamment dans vos missions, vos prérogatives, la modernisation de l'administration.
Tout à fait.
Mais plein d'autres trucs. Je pense que c'est plutôt au titre de la modernisation de l'administration que vous représentez aujourd'hui la mairie auprès de l'April. Alors d'abord, effectivement, vous l'avez dit dans votre discours d'ouverture, le logiciel libre et la mairie de Paris, c'est une histoire d'amour qui date. Pour autant, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les faits, les choses que la mairie de Paris, dans ses différentes administrations, met en œuvre qui seraient effectivement en accord avec les combats de l'April aujourd'hui?
Oui, alors écoutez, simplement, c'est une histoire d'amour ancienne, ouais. Puisque ça a été dit depuis longtemps, non, la ville de Paris a développé des applicatifs, des téléservices en logiciel libre autour d'une plateforme qui s'appelle Lutèce et qui comprend de nombreuses briques applicatives. Et pour vous donner un exemple, à la ville de Paris, il y a grosso modo à peu près 400 applications en métier. La ville de Paris est une grande maison puisque c'est à la fois une commune et un département. Donc c'est un champ très vaste qui va du sport, de l'enfance, mais surtout aux compétences départementales, dont tout ce qui est l'action sociale, le développement économique, l'innovation, etc. Et sur ces 400 applications métiers, un peu plus de 200 sont en logiciel libre, c'est-à-dire autour de cette brique qui s'appelle Lutèce, de ce grand système d'information qui s'appelle Lutèce. Et pour être encore plus précis, pour l'accélération de cette dynamique à la faveur du logiciel libre, depuis le début de la mandature, pour prendre des exemples très concrets qui feront écho sans doute à des choses que les gens connaissent, eh bien, le budget participatif, tout a été développé en libre. La quasi-intégralité des téléservices nouveaux sont développés en logiciel libre. Et pour la grande innovation de la mandature qui est le compte parisien, c'est à la fois la convergence de l'ensemble des services numériques de la ville de Paris autour d'un identifiant usager unique, mais aussi derrière un back-office de gestion de la relation usager. Eh bien, c'est développé intégralement sous Lutèce. Et je crois que c'est inédit dans le monde que la GRU, ce qu'on appelle, je le disais tout à l'heure, un peu plus vulgairement la CRM, est développée en logiciel libre et donc à la disposition des partenaires qui souhaiteront reprendre les éléments. Donc c'est un engagement technique, financier et philosophique très fort de la ville de Paris.
Et de longue date aussi.
Oui, de longue date, puisque c'est dès le début des années 2000 que la ville de Paris a commencé à libérer ses logiciels libres, parce qu'on faisait du développement en propre, mais a fait le choix philosophique, c'est Bertrand Delanoë qui l'a initié dès le début des années 2000, de partager ça, et c'est bien l'esprit, de partager pour en bénéficier collectivement. C'est un bien commun et je crois que c'est quelque chose qui vous importe.
Absolument. Alors une petite question très directe concernant Lutèce et les différents modules ou téléservices que vous développez en libre. Ça veut dire que là aujourd'hui, n'importe qui peut accéder au code source de ces applications, les télécharger et les modifier et les redistribuer.
Absolument.
Et les utiliser.
Absolument.
Vous avez une plateforme dédiée.
Il y a une plateforme dédiée qui est accessible. Alors je laisse aux techniciens et aux informaticiens les subtilités d'accès à ce type de service. Mais et c'est d'ailleurs moi, à titre personnel, même une priorité. C'est, j'ai souhaité qu'on puisse accélérer la popularisation de l'UTES, ouais, pour que la communauté de développement soit la plus large possible. Et par exemple, pour vous citer des partenaires qui travaillent sous l'UTES, qui est un nom du coup impropre puisque l'intérêt va au-delà de Paris, ouais, Météo France, la ville de Marseille, la ville de Lyon, ont pris l'UTES, mais ont eux-mêmes développé des choses et reversé au pot commun des briques que nous-mêmes derrière nous récupérons pour en bénéficier.
Alors là, on est d'accord, la stratégie est d'essaimer, oui, de faire en sorte que cette dynamique en faveur de la libération du code et du développement de logiciels libres ne se restreignent pas à Paris. Est-ce qu'il existe justement des suprastructures qui permettent entre les différentes collectivités de pouvoir échanger sur ces
Alors,
questions?
Non, paradoxalement, pas tellement. Et
mais
du
que
coup,
font les développeurs de l'UTES
oui, non mais du coup, c'est paradoxalement, ouais, c'est l'April qui joue en partie ce rôle, en favorisant les contacts avec la communauté. Mmh. Parce que faut bien comprendre que la raison stratégique de l'engagement de la ville de Paris en faveur du logiciel libre, elle est triple. La première, c'est une question de souveraineté. C'est-à-dire que quand on est un acteur public, que ce soit l'État ou une grande collectivité comme la ville de Paris, nous ne voulons pas ou éviter autant que possible de nous retrouver pieds et poings liés avec un éditeur. Parce qu'il y en a beaucoup de grandes qualités, hein. Promouvoir le logiciel libre,
oui,
ce n'est pas...
le jour où ils ferment les portes.
Voilà, mais voilà. Promouvoir le logiciel libre, ça ne veut pas dire critiquer les éditeurs. Il y a aussi des éditeurs de grande qualité.
Absolument.
Mais simplement, autant que possible, sur ce qui est la partie stratégique de nos systèmes d'information, nous souhaitons rester aussi indépendants que possible. La deuxième, c'est une raison financière, c'est que... on fait à chaque fois l'étude et autant que possible, dès lors que c'est le plus intéressant, nous promouvons l'utilisation du logiciel libre. Et la dernière, c'est une question philosophique et c'est aussi une question d'intérêt, c'est l'idée que en promouvant le logiciel libre, on promeut une communauté de développement, on partage ce qu'on fait et on bénéficie collectivement de ce partage. Et donc c'est pour ça que, notamment sur la GRU, qui est la brique la plus innovante, mm-hmm, en matière de développement récent à la ville de Paris, nous souhaitons le plus vite possible la partager avec le plus grand nombre de collectivités territoriales.
Ok. Non mais je m'attendais à ce qu'il y ait une plateforme... commune.
Mais tout souvent je leur dis comment on fait plus de pubs,
ouais,
parce que moi vous savez je suis un méchant, moi je suis un élu, donc
mais
savez,
forcément
je
mais
leur
d'ailleurs
dis,
on vous voit là,
vous comprenez, il faut qu'on soit le plus de développeurs possible sur l'UTES et, ouais, donc faites de la pub pour qu'il y ait le plus de gens possible, ouais. Donc il y a une plateforme accessible sur l'UTES, elle est connue des gens de la communauté qui utilisent déjà l'UTES,
ouais, ouais,
mais c'est vrai qu'on peut sans doute faire mieux en termes de communication sur la disponibilité de ces outils là, mm. Et l'April y joue un grand rôle.
Très bien. Je vous ai entendu parler dans le cadre de votre discours d'ouverture de la lutte contre la fracture numérique. Alors qui effectivement il y a 20 ans on pouvait parler de fracture numérique. Aujourd'hui on parle plutôt de fracture des usages, puisque accéder au numérique aujourd'hui est assez aisé, ou en tout cas ça s'est popularisé. On sait qu'il existe des structures publiques, les EPN, ça a été cité d'ailleurs par Frédéric Couchet, qui, parce qu'on a eu l'occasion, dans le cadre des activités de Libre-à-Toi, de travailler avec certains d'entre eux, sont aujourd'hui en difficulté. À Paris, on avait des chiffres, mais je ne les ai plus en tête. Tu te souviens, Clara ?
Il me semble qu'il y avait 20 EPN et qu'il n'y en avait plus que 16 et que la moitié des EPN allaient encore disparaître.
Là, sur 2017,
il devrait en rester moins de 10. Ça peut-être
Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres précis en tête parce qu'il ne s'agit pas d'acteurs publics en réalité.
Il s'agit
d'acteurs pour la plupart associatifs et donc beaucoup, ouais, d'entre eux relèvent de la Fédération nationale des centres sociaux.
En tout cas, dont la création a été initiée.
Absolument, voilà. Absolument. Et il y a eu en fait une évolution du besoin. D'abord, c'est les acteurs très importants qui occupent une place centrale et qui ont occupé une place centrale dans le développement, la popularisation des outils numériques.
Ouais.
Simplement, on est face à une difficulté et qui, du coup, par répercussion, peut avoir des conséquences difficiles pour ces structures. D'abord, Moi, je considère que quand on est une collectivité territoriale, pour ce qui relève de la fracture numérique et de la médiation numérique, on doit aussi assumer nos responsabilités. Et donc, nous avons souhaité à la ville de Paris monter en gamme, on va dire ça comme ça, autour de la facilitation numérique pour accompagner les usagers, notamment ceux qui sont les plus exclus de ces usages numériques. D'ailleurs, pour être très franc, on retrouve les mêmes populations que ceux qui avaient déjà du mal à accéder aux services publics physiques.
Absolument.
C'est-à-dire on trouve une barrière culturelle, linguistique, des personnes en situation de handicap qui avaient des problèmes pour accéder aux services publics en général et pas plus ou pas moins en services numériques. Et donc, notamment, on a développé à la ville de Paris tout un service public de facilitation numérique qui a été expérimenté dans plusieurs mairies, dans quatre, dans lequel nous avons testé plusieurs choses, à la fois des dispositifs techniques. Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour aider les usagers à utiliser nos propres téléservices, nos services numériques? Deuxièmement, organiser physiquement l'accueil des usagers pour permettre ça, parce qu'il y a à la fois le besoin d'être accompagné, mais aussi un besoin de confidentialité, donc on a testé des choses. Et troisièmement, quelle est la formation qu'on doit donner à nos agents pour accompagner ça? Après, il y a le vrai sujet que vous évoquez, et c'est vrai qu'il crée des difficultés parce que le contexte budgétaire est complexe, qui est celui de l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est au-delà d'aider les usagers à utiliser nos services numériques, c'est plutôt la mission citoyenne d'un acteur public qui est la ville de Paris. Comment la ville de Paris aide les usagers à mieux s'adapter à cette transformation numérique de la société.
Oui, parce qu'aujourd'hui, les services publics sont dématérialisés.
Exactement, enfin, c'est quasiment, mais même, pas que les services publics, c'est évidemment chercher du boulot n'est pas concerné que les acteurs publics. Chercher du boulot, chercher une maison, les vacances, la CAF.
Sur le travail, toutes les agences Pôle emploi ont des ordinateurs
absolument
à disposition.
Mais même, même faire ses courses, acheter, voilà, il y a plein de sujets. Et pour ça, les EPN ont rempli une place essentielle, à nos yeux un peu moins récemment, mais certains d'entre eux pourront avoir une place centrale. Et hier même, avec ma collègue Dominique Versini, puisque c'est Dominique Versini au titre de la dimension sociale de sa délégation qui travaille là-dessus avec moi, nous avons lancé le premier temps de la construction d'un schéma stratégique pour l'inclusion numérique. Dans lequel, en discutant avec les acteurs, nous allons essayer de définir les meilleurs outils, les meilleures méthodes pour favoriser l'inclusion numérique. Et pour vous donner un exemple très précis sur les EPN, hier, j'ai répondu sans doute un peu rapidement à une question qui m'avait été posée par un EPN qui me disait « Est-ce que vous envisagez le chèque numérique ?» J'avais déjà réfléchi à cette question. J'étais plutôt sur le « non ». Parce que pour moi, le chèque numérique a un défaut, c'est que c'est une nouvelle forme de financement et ça veut dire qu'on se préoccupe d'abord du financement avant de se préoccuper de l'usager et de ce qu'on doit faire. Or, je dis que j'ai répondu un peu vite parce que j'y ai réfléchi hier soir et parce qu'on a toujours des moments où on peut réfléchir un peu plus. Je me suis dit que ça méritait peut-être qu'on en discute un peu plus parce que ça a au moins un avantage, le chèque numérique. C'est que ça cible très précisément la prestation que l'on veut donner à quelqu'un en particulier. Et donc, on en a discuté avec Dominique Versini. Ça fait partie du champ des possibles que nous allons évoquer. Oui, c'est vrai, les EPN ont besoin d'être réassurés dans leur mission, dans leur mode de financement. Évidemment, des décisions que nous avons prises sont difficiles, je le regrette, mais le contexte est difficile. Mais nous allons
mais
discuter avec eux.
Il s'exprimait politiquement. Enfin, on nous exposait, on nous expliquait que à la mairie de Paris, en l'occurrence, puisqu'il était question de PN parisien, d'abord il y avait un élu qui était consacré, enfin qui se consacrait à la gestion des EPN. Et puis pendant une mandature, il a complètement disparu. Et puis à la mandature suivante, il y a eu quelqu'un qui pouvait avoir dans le champ de ses compétences la gestion de ces EPN. En fait, ils ont eu l'impression d'être complètement abandonnés. Mais ce que j'entends aussi dans ce que
surtout,
vous dites...
Surtout qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé quand même par rapport aux EPN, c'est la mission d'intégration sociale.
Mais non, mais c'est ça, ça, justement, c'est oui, ce que j'allais dire. Que et en fait, c'est...
Ils ne la remplissent... Enfin, voilà. Vous le savez aussi, mais... ils ne la remplissent pas du tout de la même façon parce qu'ils n'ont pas tous exactement la même vocation historique.
Absolument.
Le même type d'usagers qui les fréquentent. Je les connais bien, les EPN. Ouais. Vous avez raison, il y a eu un petit glissement sur, qui traduit aussi des priorités, qui
Absolument.
Traduit aussi l'air du temps. Les EPN avant étaient dans le secteur social avant 2008. Mmh. À partir de 2008, c'est Jean-Louis Missica, au titre de la délégation Innovation Université Recherche, qui s'en est occupé. Mmh. Je le sais, j'y étais très impliqué. Et pendant cette mandature en 2014, on retrouve une priorisation sociale, puisque c'est ma collègue Colombe Brossel, au titre de la politique de la ville, qui a récupéré la supervision des EPN. Donc, il faut aussi comprendre, et ça, bah, nous, on l'assume, et parfois c'est difficile, que par moment, nous identifions des priorités. La priorité 2008-2014, c'était accélérer la transformation numérique de la société. Aujourd'hui, il nous semble que la priorité, c'est plutôt les grands exclus de l'accès aux services numériques. Et donc, ça nous impose un peu de tâtonnement pour l'instant. Hier, je vous dis, on a lancé les travaux sur ce schéma stratégique. Je m'excuse que voilà, ça prend toujours un peu de temps. On prend du temps parce que tout ça coûte de l'argent. Et donc, on veut être sûr que ça remplisse les objectifs politiques qu'on se fixe collectivement. Mais clairement, aujourd'hui, notre priorité, c'est deux choses. C'est l'inclusion numérique, c'est-à-dire pour toutes les populations qui sont les plus exclues socialement, et la facilitation numérique, parce que nous accélérons la transformation numérique de la ville de Paris. C'est notre devoir d'accompagner les citoyens pour ne pas les laisser au bord de la route en termes d'accès aux services publics parisiens.
Alors, mais là, malheureusement, on est sur une vraie volonté, une vraie dynamique. Moi, je suis tout à fait enclin à vous croire et j'entends parfaitement votre propos. Et je comprends aussi que les EPN se sont peut-être un peu endormis sur leur mission initiale et n'ont pas non plus bien géré. Voilà. Mais on est à Paris, là. Comment ça se passe dans les autres villes? Comment cet accès et cette résorption de cette fracture véritable des usages dans le cadre d'une citoyenneté de plus en plus dématérialisée aujourd'hui, exister, avoir un compte Pôle emploi, être au chômage ou travailler ou, comme vous le disiez, faire ses courses, ça implique... Alors vous, je sais, vous êtes élu municipal, vous êtes élu parisien, je ne vais pas vous interroger sur la politique globale, mais comment vous imaginez que l'ensemble puisse devenir cohérent et,
Mais si vous voulez, c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Pendant longtemps, les EPN ont eu un rôle quasiment exclusif en termes d'inclusion numérique.
Ouais.
Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'acteurs se sont rendus compte qu'ils devaient aussi faire ça. Je vais vous citer plusieurs exemples, mais la ville de Paris a développé le Ma Mairie Mobile, qui est un bus dans lequel on va le plus proche possible des populations qu'on considère exclues, pour les accompagner là-dessus. Il y a les PIMS qui ont pris un rôle croissant en matière d'inclusion numérique. Les PIMS, c'est le point d'information médiation multiservice. C'est une association qui regroupe l'assurance maladie, la CAF, EDF, la Poste, la Ville de Paris, dans lequel on essaye de prendre un usager de façon transversale pour l'aider sur les problèmes qu'il peut avoir avec l'administration et notamment sur la médiation numérique, remplir les dossiers. Il y a évidemment...
Donc c'est une prise en charge centralisée,
globale
d'une personne.
Moi, je crois beaucoup que les acteurs publics doivent s'adapter aux usagers et donc en matière de médiation, pas que numérique d'ailleurs, mais en matière de médiation sociale, pour les populations les plus exclues, ils doivent faire des guichets qui sont capables de répondre à la globalité de leurs problèmes. Parce que si on continue à les envoyer au guichet municipal, au guichet social, au guichet, parce que le département avait des guichets particuliers, à la poste, à la médiation de l'assurance maladie, etc., ça ne peut pas fonctionner. Et puis aussi parce que des grands acteurs des politiques sociales, de l'accompagnement social, on a un exemple parmi tant d'autres, Emmaüs Connect, beaucoup ont développé des services d'accompagnement numérique. Et donc nous, on essaye, toujours imparfaitement, je le reconnais, mais on essaye d'accompagner l'évolution de l'écosystème et en se posant la question, en essayant des choses, parfois en faisant des erreurs, de trouver la meilleure solution pour répondre à ce qui nous semble être la priorité. Et la priorité en ce moment, c'est l'inclusion des grands exclus en matière de numérique.
Alors Marie-Odile avait deux questions sur le chat. Marie-Odile, c'est...
Bonjour Marie-Odile.
Voilà. C'est une fervente de l'April.
Et donc elle ne pouvait pas venir vu qu'elle est en Italie, j'ai compris. Hein, donc les questions qu'elle avait, c'était de revenir plus en détail sur le chèque numérique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre? Comment ça se présenterait si ça se mettait en place? Et puis la deuxième question, c'était aussi par rapport aux écoles de la ville de Paris.
Parce que ça, c'est une question que j'allais poser.
Comment se mettait en place le logiciel libre dans les écoles? Moi, j'avais une autre question qui était un peu similaire sur les bibliothèques municipales. Est-ce que aussi la ville de Paris a contribué à mettre en place la plateforme?
Voilà. Ah bah oui, enfin je vais répondre dans le désordre alors. La bibliothèque, oui, pour une raison simple, c'est que c'est intégralement des services publics municipaux. Donc évidemment, et c'est un service dont on est très fier parce que je crois qu'il y a eu ces dernières années une montée en gamme importante en termes de qualité pour les usagers et les agents. Voilà, on a beaucoup plus simplifié le système, c'est devenu
assez c'est génial.
Simple.
Voilà. Ouais, non,
les retours qualité sont plutôt sympas.
Non, c'est vraiment très bien.
Sur les écoles, je vais finir par les écoles parce que c'est le sujet le plus complexe. Le chèque, pour être très clair, il y a différentes formes qui existent, mais globalement, ça consiste à cibler une aide publique financière sous forme de chèque à valeur monétaire, mais dont on dit on ne vous donne pas de l'argent et vous en faites ce que vous voulez, c'est on vous donne un potentiel d'achat pour une prestation qui, en l'occurrence, est de l'accompagnement, de la formation, etc. Et l'intérêt, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes sûr que vous ciblez l'aide sur un segment particulier dont vous considérez que c'est un besoin social. Et c'est aussi, je le crois, et c'est pour ça que beaucoup de structures associatives sont intéressantes, ils voient un moyen de relais de financement basé sur l'activité qu'ils mettraient en œuvre pour faire ça, à une époque où beaucoup de ces structures fonctionnaient à la subvention. Et du coup...
C'est plus trop la mode là.
C'est plus trop la mode parce qu'il y avait des glissements, c'est-à-dire que des acteurs faisaient plein de choses et vous donniez des subventions. Et quand vous financiez un nouveau programme, vous observiez 2 ans après que tout l'argent que vous avez mis sur ce nouveau programme n'était pas forcément mobilisé pour ça. Bref, c'est un problème inhérent à toutes les structures financées de cette façon, avec des avantages et des inconvénients. Mais le chèque, je n'étais pas fan a priori. Je souhaite qu'à la ville de Paris, on y réfléchisse un petit peu plus.
Mais ce serait des montants variables selon les besoins.
Oui, en fonction des besoins, des lieux, des publics, etc.
C'est pour ça que ça travaille avec les EPN en fonction justement de
ce qu'ils sont. Pas que les EPN.
Ça peut aussi se travailler avec les EPN.
Ça veut dire aussi que les associations peuvent chiffrer les services qu'elles rendent.
Et qu'il faut que les associations puissent avoir des justes financements de leurs coûts de structure. C'est une évidence. Parce que la baisse des subventions les conduit sinon mécaniquement à des impasses budgétaires que chacun comprend bien. Sur l'école, c'est plus compliqué parce que l'école, comme vous le savez, est sous double responsabilité historiquement. Une responsabilité éducation nationale pour grosso modo tout ce qui touche à la pédagogie et à la prise en charge des personnels de l'éducation nationale. Et la ville, les villes historiquement avaient une mission, c'était construire des écoles et les entretenir. Voilà.
Les structures.
Les structures. Ça a beaucoup évolué suite à la réforme des rythmes scolaires parce que via la mise en place de l'aménagement des rythmes éducatifs, les villes ont été amenées à la fois parce qu'elles devaient gérer du temps périscolaire en plus, mais aussi parce qu'il y avait une demande des parents d'un service public de qualité à s'intéresser un peu à des domaines qui ne touchent pas la pédagogie. Je n'oserais pas dire ça, sinon je me ferais tirer les oreilles, mais qui touchent en tout cas à des domaines un peu plus intéressants que construire des murs et les peindre ensuite. Et évidemment, le numérique a une place centrale. Moi, je vais être très franc, je trouve que l'éducation nationale, malgré les efforts considérables qui ont été faits ces 10 dernières années, a un retard stratosphérique en matière de pédagogie, de transformation numérique. sur les méthodes d'enseignement, sur les niveaux d'équipement, parce que c'est bien gentil de demander aux profs de faire de l'enseignement à la transformation numérique, etc. Mais enfin, on leur donne juste pas d'ordinateur, etc.
C'est ça, oui.
Donc, évidemment, si on veut leur demander ça, il faut y mettre les moyens conséquents. Mais bon, l'éducation nationale a mis en place des plans d'investissement numérique avec des appels à projets. Il y a plein d'appels à projets sur les équipements, comment utiliser la tablette. Parce qu'il y a par ailleurs des vraies interrogations de fond, et je suis totalement incompétent sur la question, sur quelle est la juste place du numérique en matière d'enseignement. Est-ce qu'en gros, on doit prendre acte que tous les enfants ont accès à des portables et donc basculer là-dessus? Ou est-ce que le rôle de l'école, c'est pas un peu de tempérer ça et de garder quand même certains garde-fous par rapport à la surexposition des enfants
Aux écrans,
qui est un vrai problème de santé publique et peut-être même un problème cognitif. Et la ville,
ça peut en engager, ouais.
Elle a souhaité engager aussi des moyens en matière de numérique. D'abord, nous entretenons le parc informatique de la plupart des écoles avec des dotations en ordinateur. Pas assez, c'est vrai, mais ma collègue Alexandra Cordebar, qui s'occupe de ça, a présenté un plan d'accélération des équipements, de renouvellement des équipements. Et là-dessus, quelle est la place du libre?
C'est ça. Parce qu'au-delà de l'équipement, il y a ce qu'il y a dedans.
Absolument. Alors l'équipement, si vous voulez, c'est toujours le truc. Les parents d'élèves disent, bah, moi je vous donne mon ordinateur, j'ai un ordinateur dans ma cave, il ne sert plus. Le problème, c'est que s'il est dans la cave, c'est bien généralement parce qu'il est un peu vieux. Et donc il n'y a pas de raison que nous, on s'en serve beaucoup mieux qu'eux s'ils y ont renoncé. Donc ce n'est pas toujours la bonne solution. Mais incontestablement, dans les équipements des ordinateurs, et on a cette réflexion en permanence, on a le souci d'essayer d'éduquer les enfants à d'autres standards que uniquement les big brands, comme on dit, avec lesquels ils sont familiers, sans non plus les couper, parce que sinon ça les éloignerait un peu de la vraie vie. Parce que
en même temps, c'est un peu compliqué, parce que les enseignants eux-mêmes, grâce au contrat entre l'éducation nationale et Microsoft, sont éduqués, biberonnent du logiciel propriétaire. Donc c'est compliqué de transmettre autre chose quand même, non?
Après, bon, si vous voulez, moi je pourrais vous faire croire que je condamne le truc, etc. Ce serait facile en étant à cette soirée. C'est pas ça que je pense, parce que la réalité, c'est qu'une fois qu'on a pris des positions de principe, il faut aussi développer tout ça.
Ouais.
Si vous mettez un Ubuntu, un Linux devant quelqu'un qui n'a jamais été formé à ça, il va juste vous regarder en vous disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc derrière le développement des logiciels libres, derrière le développement,
c'était vrai il y a quelques années, ça allait beaucoup
moins. Je vous le dis, franchement,
quand
vous changez,
on allume un ordinateur sous Ubuntu, c'est comme s'il était sous Windows, sous Mac.
Non, je vous assure que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Et pour vous donner un exemple précis, à la ville de Paris, on a 30 000 ordinateurs. Voilà, 30 000 ordinateurs avec une file bureautique que vous connaissez très bien. Je n'ai même pas besoin de la citer. Et donc, j'ai demandé à ma DSI...
Avec Office...
avec l'Office Office connu.
2011
Non, un vieux, justement. Et donc, la question
2007.
Va être de le renouveler. La question va être de le renouveler. Et j'ai demandé à ma DSI d'explorer le champ des possibles. Moi, j'ai aucun a priori. Je vais vous dire, je suis quelqu'un de très ouvert. Si on me convainc que ça fonctionne, etc. Et simplement, on s'alerte
collectivement. Et la gendarmerie l'a fait.
Oui,
l'Assemblée nationale aussi.
Nous avons...
Non, mais l'Assemblée nationale, c'est là aussi.
J'ai dû voir quelques postes à l'Assemblée nationale et je suis familier du lieu, qui n'étaient pas tous sur d'autres OS que celui auquel on pense.
Donc allez-y, excusez-moi, je vous ai coupé.
Simplement, quand on fait des migrations sur d'autres suites logicielles, que ce soit d'ailleurs des suites propriétaires ou des suites libres, ça demande de la préparation. De l'anticipation,
mais il y a de la conduite de changement
et de la formation, exactement. Et donc il faut faire de la formation, de la popularisation, c'est d'ailleurs la mission de l'April expliquer aux administrations, parce que si vous voulez, l'un des écueils quand même parfois du choix du libre quand il est formulé notamment par certaines administrations centrales, c'est qu'il n'est pas fait pour faire du libre, il est fait pour que ça coûte moins cher. Et je ne suis pas convaincu que ce soit toujours une très bonne idée.
Non, mais absolument, c'est une erreur.
Il faut, moi, j'ai plutôt un tropisme pro-libre philosophique. Mais après, il faut que ça se fasse dans des conditions organisationnelles, opérationnelles, qui soient soutenables pour la continuité des services en général et du service public en particulier. Mais oui, et notamment c'est une mission de l'April, d'essayer de faire découvrir tout ça aux agents publics, aux administrations, pour les rassurer. Et moi, je suis convaincu que oui, dans la suite bureautique dont a besoin quelqu'un qui a une mission de secrétariat, peut-être que l'intégralité des fonctionnalités et de développement en VBA ne s'impose pas.
Absolument.
Et que justifier, centrer, mettre en gras et en italique peut suffire. Et donc, et quand on sait que par ailleurs, il y a des logiciels de bureautique libre qui ont des puissances extrêmement importantes.
C'est beaucoup plus stable, et, d'ailleurs.
Non, mais moi, je suis un client, donc je n'ai pas d'avis. Donc, mais c'est incontestablement une voie qu'il faut explorer, et on le fera dans les mois et années à venir.
Bon, vous nous assurez que la dynamique est là, en tout cas.
Oui, oui, elle est réelle. Elle est réelle.
Et juste pour chiffrer, sur le parc informatique de la ville de Paris,
il y a 30 000 postes,
ils sont tous donc en
100%. Windows.
Ouais. En Windows, hein, c'est ça.
100% moins 2 postes.
dont le vôtre.
Par contre, c'est pas le cas sur les serveurs, par exemple. Sur les serveurs, on est à 2/3. Ouais. 2/3 des serveurs fonctionnent en logiciel libre.
Bah, comme
ce qui est déjà pas mal dans une administration.
Mais effectivement. Mais c'est un peu ça. Hein. Dans le monde, 2/3 des serveurs sont sous logiciel libre, en fait. Merci Emmanuel.
On est juste moyen.
Merci. Merci Emmanuel Grégoire.
Merci à vous.
J'espère
merci
qu'on vous a pas trop ennuyé.
Non, c'est très bien. Vous êtes là pour ça.
Et belle soirée à vous.
Merci à vous.
À bientôt.